Bonjour à tous, Didier pour un nouveau rendez-vous compte. Un rendez-vous compte pendant lequel aujourd'hui, nous allons partir dans l'ivresse, mais quand même pas trop loin, à Soisy sous Montmorency, et dont vous ressortirez, chers auditeurs, peut-être tout plein de résistance. Bonjour Renata.
Bonjour.
Et bonjour, je vais le dire à la française, Angela Esther.
Bonjour.
Voilà, donc vous habitez Soisy sous Montmorency.
Oui. Oui.
Depuis longtemps?
Depuis 17 ans.
D'accord.
Un peu plus, 40 ans.
Ah oui, donc vous êtes validé, oui. On va dire.
Voilà. Merci.
Alors, vous m'avez contacté par l'intermédiaire du journal de François,
oui. Hein,
François Jeannin, donc le rédacteur en chef de l'indispensable et formidable oui. Journal de François, qui nous dit tout sur la vallée de Montmorency. Vous l'avez contacté pour qu'on consacre un rendez-vous compte à une personnalité qui a vécu à Soisy avec son mari, mais qui a une envergure, disons, historique. De qui s'agit-il ?
Il s'agit de Lucie et Raymond Aubrac.
Voilà. Alors, Lucie et Raymond Aubrac, comment peut-on les décrire ? Ils sont très connus, mais en même temps, un petit peu oubliés peut-être maintenant ?
Oui. Oui. Nous avons l'impression oui. que les jeunes ne la connaissent pas. Mmh. Et on aimerait que ça se change.
Pourquoi étaient-ils connus ? Ils ont joué un rôle pendant une période de la France très compliquée.
Bon, ils sont des personnages primordiaux pour la résistance, surtout dans le sud au début. Pour la France, ils sont vraiment battus pour la liberté, contre le nazisme, et vraiment avec une panache, avec tout leur trip, excusez-moi cette expression,
oui, oui.
Et que c'était formidable. En plus, il ne faut pas oublier que c'était des personnages, déjà Madame Lucie Aubrac, qui était déjà mère de famille aussi, il ne faut pas oublier. Hein. Ce n'était pas des jeunes qui plein des idées et tout ça, mais c'était déjà réfléchi, et qu'ils ont mis tout en œuvre pour libérer la France.
Voilà. Ils se sont connus dans l'Est de la France et très vite, ils se sont engagés tout de suite dans la résistance.
Oui,
tout de suite. Tout de
oui.
suite, oui.
Et Raymond a oui. été arrêté et profitant du bazar ambiant, Lucie a réussi à le faire libérer une première fois.
Oui, oui. Tout
à fait. déjà avec une panache, comme je me répète un peu, peut-être.
Oui, oui, oui. Non, c'est ça. Un sang-froid et un culot. Oui.
Et un plan.
Voilà.
Elle avait toujours prévu un plan.
Voilà, le plan B.
Oui.
Donc, il faut expliquer qu'ils se sont retrouvés à Lyon hein, oui. dans les années oui. 42-43. Et ils ont contribué à la fondation du mouvement de résistance qui s'appelait Libération.
Sud.
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 Oui.
Qui était un des principaux mouvements de libération, enfin de résistance.
Oui, ouais. avec Jean Moulin.
Voilà, c'est ça.
Aussi un ouais. personnage très important.
Ouais. Et donc, bien sûr, ils vont prendre des risques. Et... tout le monde connaît, enfin beaucoup de gens de nos générations, disons, connaissaient l'anecdote, qui est plus qu'une anecdote, c'est un fait historique. Raymond est arrêté avec une dizaine d'autres résistants. Et Lucie, qu'est-ce qu'elle va faire ? Enfin, c'est assez incroyable.
Elle va voir même Klaus Barbie
ouais.
pour essayer de le libérer, mais avec une ruse. Elle change son apparence, elle se déguise pratiquement une bourgeoise. Mmh. Et bon, elle est déjà enceinte de son deuxième enfant. Mmh. Et elle prétend qu'elle veut se marier justement avec cette personne qui est arrêtée. Et prétend justement ne pas savoir que c'est un terroriste.
C'est ça. Donc elle se jette carrément dans la gueule du loup.
Oui.
Ça a failli réussir. Mais finalement, elle réussit quand même à faire passer des informations à son mari. Mmh. Et quelques jours plus tard, qu'est-ce qui se passe ?
Elle a le rendez-vous. Elle a un rendez-vous avec un officiellement qui l'écoute et tout ça, qui essaye d'arranger justement quand elle demande, elle ne peut pas devenir mère-fille. Il faut absolument qu'elle se marie. Ouais. Si dans ce statut social, c'est impossible de revenir. Même s'il sera condamné à mort, cette personne-là, il faut absolument qu'elle soit mariée avec lui.
La morale devait être sauve.
Ouais. Oui, c'est
même
ça.
Si on exterminait des millions de gens, il fallait quand même... Le mariage.
Oui.
Alors donc, mais cette demande ne va pas réussir. Mais finalement, quelques jours plus tard, lors d'un transport de son mari et puis d'autres résistants.
14 d'autres.
Avec un groupe de francs-tireurs, ils vont attaquer. Ils vont attaquer le moyen de transport. Les gardes allemands vont croire que le véhicule tombe en panne, donc ils ne vont pas se défendre. Bah, ils vont être tués par les résistants. Tous les résistants vont être libérés.
Libérés.
Incroyable.
Oui, c'est un film, vraiment un film.
Alors oui, ça a été un film parce que justement, ça a été... Alors dans le célèbre film qui s'appelle L'Armée des Ombres, on voit Simone Signoret qui joue le rôle de Mathilde. D'ailleurs, elle s'appelle... Enfin, dans le film, ça s'appelle Mathilde, mais en fait, c'est Lucie Aubrac. et on voit la libération spectaculaire de son mari. Mais alors, ce que j'ai appris en préparant l'émission, sauf si mes sources sont fausses, mais Lucie Aubrac, qui était donc enseignante avant la guerre, à Nantes, je crois, quelque part.
À Vannes.
Eh bien, elle a eu pour élève
Simone Signoret. Oui.
Ah, mais ça, c'est incroyable.
Oui, c'est. Oui.
Après ces opérations, quand même, Lucie, son mari et leur premier enfant vont réussir à regagner Londres.
Oui, c'était très longue, cette période, 3-4 mois.
Ouais. Et, dans la clandestinité.
Oui. Ouais. Et aller d'un endroit à l'autre. Ouais.
C'était avec un enfant
avec
très jeune.
Avec un petit enfant.
Et hautement enceinte.
Enceinte.
Et sa fille Catherine. Oui.
Voilà. Mais donc, finalement, l'avion qui devait les ramener à Londres va pouvoir effectuer sa mission. Mais alors, ce que j'ai appris également, c'est que pour être informé de l'arrivée de cet avion, ils écoutaient bien sûr les messages codés de la BBC.
Tout à fait.
Et le message codé qui leur annonçait l'arrivée de leur avion s'appelait
« Nous partirons dans l'ivresse ».
Voilà. Oui, ils partiront dans l'ivresse. Et quand Lucie a écrit en quelque sorte les mémoires de son journal de guerre, elle l'a intitulé
« Oui, ils partiront dans
l'ivresse ». Ils partiront dans l'ivresse, voilà. Renata et Angela, vous avez demandé à écouter un premier titre qui s'intitule « Ceux du Maquis ». Un chant composé à Londres en 1944 par deux Français libres, le dessinateur et chroniqueur Maurice Van Mopes et le musicien Francis Chagrin, et qui a été diffusé sur les ondes de la BBC dans l'émission « Les Français parlent aux Français » en 1944, alors que les Maquis se multipliaient en France occupée et participaient activement à la libération. On écoute « Ceux du Maquis ».
Ils se sont enfuis dans la nuit pour ne pas aller en Allemagne, quittant leurs parents, leurs amis, se cachant dans la montagne. Et pour mieux servir le pays, ils ont pris le maquis. Ce sont ceux du maquis, ceux de la résistance. Ce sont ceux du maquis, combattant pour la France. Bravant le froid, bravant...
Donc après la guerre, on va sauter. Alors par contre, ce qui est quand même assez étonnant, c'est que, d'après ce que j'ai lu aussi, c'est Charles de Gaulle qui va être le parrain...
De Catherine. Catherine Aubrac. Oui,
de leur fille.
Oui, c'est ça. L'enfant qui est né donc à Londres.
Voilà. Donc ça aussi, c'est quand même assez extraordinaire. Bon, la guerre se termine. Et puis, après la guerre, et là, je vous laisser plus la parole, ils vont habiter à Soisy.
Oui, dans cette grande maison avec jardin et où ils pouvaient recevoir leurs amis. Ouais. Il y a les élèves aussi qui ont profité de cette maison.
Oui, et parce que Lucie était...
Professeur d'histoire, géographie, d'abord à Paris et après, justement, elle est venue au lycée d'Anguin, qui maintenant, c'est Gustave Monod.
Donc, elle recevait
des élèves. Bon, il faut dire que ce n'était pas une professeure comme les autres, non. Oui. Elle avait vraiment cet esprit de véritable transmission et voulait enseigner autrement. De toute façon, ça ressemble à son état d'esprit de toujours, d'être libre. Car c'était vraiment une femme que l'hiérarchie, c'était pas pour elle.
C'était une rebelle.
Donc, elle amenait également les élèves, dans le massif central, où ils faisaient des fouilles. Ils vivaient ensemble. Pour elle, transmettre, c'était vraiment que tout le monde soit ensemble.
Et en plus, elle a fait aussi la connaissance des autres résistants. Vraiment, c'est les enfants, les élèves, ils ont vraiment vécu l'histoire en vrai.
Avec une personnalité quand même hors du commun.
Absolument.
Voilà. Oui. Et donc, quant à son mari, Raymond, il a aussi travaillé pour la reconstruction, je crois.
Oui, c'est ça.
Voilà. Donc, ils étaient pleinement... Ils ont vécu une douzaine d'années.
Oui, c'est ça. 46 à 58.
Et après, ils sont partis...
À l'étranger.
Au Maroc, je crois.
Au Maroc, à Rome. Et voilà. Ils sont revenus à Paris.
Voilà. Où elle a continué son travail d'enseignant, je crois.
Oui, et surtout, le rapport avec les élèves... Pour elle, c'était, je pense, aussi important qu'enseigner en classe que d'aller les voir. Elle n'arrêtait pas de donner des conférences et jusqu'à pratiquement sa mort.
Oui, puisqu'après la retraite, elle allait d'établissement en établissement pour parler de la résistance, de son action.
Oui.
Toujours de façon très modeste.
Très modeste et vraiment alerte aussi qu'elle n'oublie pas ce que ça veut dire, la République, la liberté et la fraternité, jusqu'à sa mort.
Ouais. Et personnellement, j'ai eu la chance de la rencontrer au collège de Saint-Leu-la-Forêt, Wanda Landowska, où elle est venue pour rencontrer des élèves. Grâce à Madame Bervas, mon amie, que je salue également. Voilà, donc c'était toujours des moments très émouvants pour les élèves et aussi pour les professeurs. Voilà. Alors, dites-moi, pourquoi est-ce que... Alors, il y a aussi quelque chose d'assez incroyable, c'est que pendant qu'ils étaient à Soisy, il y a eu un autre personnage historique aussi qui est venu plus ou moins habiter chez eux.
Oui.
De qui s'agit-il ?
C'était
Ho Chi Minh.
Le chef du Vietnam qui essayait de se libérer de la France.
Oui. Et ils sont restés très amis.
Oui, tout au long de leur vie et tout ça. Et même, on peut dire que Ho Chi Minh est devenu le parrain de la troisième enfant de Lucie.
Elisabeth.
Oui.
Incroyable.
Il l'appelait Babette, toujours.
Et alors donc, un enfant avait pour parrain Charles de Gaulle et l'autre, Ho Chi Minh. En principe, ils étaient plutôt ennemis sur le terrain. c'est quand même un destin incroyable. Tout ça à Soisy.
Oui.
Alors justement, Soisy, quelles traces reste-t-il des Aubrac à Soisy ?
Rien.
Malheureusement, c'est vrai.
Non, mais c'est ça, c'est notre... Nous avons constaté, quand on en parlait autour de nous, déjà, bon, les jeunes, bon, on conçoit, mais les moins jeunes, c'était un peu choquant. Et bon, c'est pour ça qu'on a dit, c'est pas possible qu'une ville où ils ont quand même vécu 12 ans, ils ont quand même œuvré, ils étaient part entière de la ville. Hein, ils étaient électeurs, Lucie Aubrac était parent d'élèves, très actif,
présidente de la section des parents d'élèves.
Oui. C'est ça, des parents d'élèves, et très actif. On a pu voir quand même certaines lettres, mais bon, et on n'a rien. Alors,
donc ça nous a choqués quelque part, et on a commencé à entreprendre les démarches auprès de la mairie, où les personnes n'étaient pas du tout courantes. Ce qu'elle avait vécu à Soisy et ce qu'elle avait fait. Ensuite, on est allé plus loin. On a bien lu les biographies sur Lucie Aubrac et l'autre biographie sur Raymond Aubrac pour avoir une idée plus concrète que ce qu'on lit dans un article, etc.
Oui. Il faut préciser aussi que Renâtre a eu la chance de rencontrer Madame Elisabeth Elva Aubrac, la dernière fille.
Oui, par hasard. Et à l'époque, on discutait, je lui faisais part de notre étonnement qu'il n'y a aucune mention à Soisy.
Et alors, quelle est l'origine de votre intérêt spécifique pour Lucie ? C'est pas simplement parce que vous habitez à Soisy ?
Non, c'est vrai, vous avez raison. Pour ma part, j'ai enseigné dans le Val-d'Oise dans différents établissements, et j'avais vraiment une chance extraordinaire. Les collègues qui enseignaient l'histoire étaient constamment en contact avec les personnages de la Deuxième Guerre mondiale, soit étaient les personnes qui venaient des champs de concentration, ou justement les résistants. Et par là, j'ai fait connaissance de leur travail, les angoisses de leur vie dans les camps et leur vie en tant que résistant. Et je trouvais que, justement, une jeune femme qui sort à peine de son mariage, pas le mariage, mais d'une époque... sans souci, quelque part, elle était, Lucie Aubrac, elle était très près des jeunes à Paris. Hein. Elle aimait cette vie à Paris, dans les cercles, les quarters, où la jeunesse communiste. Donc par là, elle était partie pour se battre pour les valeurs qui lui étaient chères. Et donc, j'ai bien entendu parler dans mes établissements de Lucie Aubrac.
Notamment à Enghien-les-Bains, je crois que vous avez enseigné aussi, c'est
ça ? Oui, tout à fait. Voilà.
Alors, une petite chose, ce n'est pas leur nom au BRAC. Ce n'est pas leur nom d'origine.
Non, c'est, hein, c'est Lucie Bernin et...
Samuel.
Samuel, voilà. Oui.
Alors, au BRAC, alors on peut imaginer que c'est peut-être la région de France où il y a... Mais pas du tout.
Non. C'est un personnage, je crois, d'une série policière, voilà.
Très à la mode à l'époque.
Oui,
commissaire au BRAC. Ça tombait bien quand on était résistant.
Voilà. Oui.
Et vous, Angela Esther?
Oui, moi, j'ai, bon, pour mes recherches pour un livre que j'ai édité, mais en allemand, c'est sur les camps de concentration, sur le théâtre dans les camps de concentration. Mmh. Alors, j'étais à la recherche vraiment des survivants, surtout en Allemagne. On trouvait à cette époque-là, dans les années 80, pas beaucoup de monde et j'ai commencé à vivre ici. Et comme ça, j'ai fait la connaissance des résistances ici, grâce vraiment à la Fédération nationale des déportés et des internes résistances patriotes. Et le professeur Dr Georges Wellers et d'autres. Et par ce biais-là, car je dois avouer, avant je ne connaissais pas les noms, j'ai fait la connaissance des deux personnages et ce qu'ils ont fascinant. Et c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment une idole, vraiment. Ce sont des idoles, vraiment, qui, surtout vu la situation géopolitique actuellement, plus que jamais.
Voilà.
Des références.
Alors, on va écouter une archive, à savoir Lucie Aubrac, qui explique à Bernard Pivot, dans l'émission Apostrophe, alors je crois que c'était en 1984, pourquoi elle est devenue résistante. Alors, vous parlez d'idole, mais pour elle, ça n'avait rien d'héroïque.
Non, elle était normale.
C'était normal.
Elle n'a jamais, on a l'impression, elle n'a pas pensé à vraiment les suites. Elle a fait ce qu'elle devait faire.
Spontanément, elle s'est lancée quand il fallait agir.
On écoute l'archive.
Pourquoi étiez-vous dans la résistance?
Mais vous voyez, ça, j'ai l'impression que si vous aviez vécu cette période, vous auriez trouvé que c'était la démarche normale de quelqu'un de raisonnable. Quand on était raisonnable et sensé, on ne pouvait pas accepter que sur le sol de France, il y ait un occupant étranger, et quel occupant, qui se doublait d'un nazi et d'un raciste. Et la moindre des choses, quand on avait un petit peu de sens moral, ça allait avec la santé morale et avec la santé civique, si je peux dire, des gens. C'était d'être, de s'opposer à l'occupant et de s'opposer au régime de collaboration qui travaillait avec l'occupant. Alors, on faisait certains actes. Quand vous faites certains actes, vous finissez par avoir un engagement.
Voilà, nous sommes toujours bien sur IDFM, à l'écoute de ce rendez-vous compte, où nous recevons Renate et Angela Esther. Habitante de Soisy, mais qui milite, on pourrait presque dire ça, pour que le témoignage, la mémoire de Lucie Raymond Aubrac soit un peu plus signalée dans leur ville où elles habitent, Soisy. Vous avez pris beaucoup de contacts, vous l'avez dit, et puis vous avez remarqué que dans le Val d'Oise, il y avait quand même un certain nombre de municipalités qui avaient donné leur nom, Lucie Aubrac ou Raymond Aubrac. Vous avez des exemples?
Oui, il y a Montmort aussi. Il y a justement le centre culturel, le parc, il y a Aubonne, il y a aussi une avenue, il y a partout. On a fait des recherches vraiment d'abord Val d'Oise. C'est partout, Bessancourt, Argenteuil, ce sont des écoles, des crèches, des EHPAD, les ronds-points, partout,
oui.
Des squares.
Peu de traces de Lucie Raymond Aubrac à Soisy. À noter cependant sur le site officiel de la ville, le site internet, dans l'histoire de la ville, les personnalités qui ont compté au XXe siècle, il est mentionné quand même Raymond et Lucie Aubrac. On dit qu'on n'est pas prophète dans son pays, mais on peut peut-être inverser quand même la tendance, oui. Alors, par exemple, qu'est-ce que pourrait faire Soisy pour honorer la mémoire de ces deux grands résistants?
Je pense qu'on pourrait trouver un endroit pour mettre une stèle, ou une plaque quelque part. Nous avons pensé même, mais on a choisi déjà un endroit qui nous plairait bien. Voilà, avant d'aller dans le petit parc, le Val d'Ombre.
Val d'Ombre, oui.
Avant l'entrée, il y a un petit peu d'eau, il y a des fleurs. Et on trouvait que c'était un endroit idéal.
Oui, parce qu'on
en fait, c'est tout près de leur maison en face. D'origine.
Alors, leur maison, qui, je crois, est devenue maintenant la propriété d'une entreprise d'ambulance.
Oui, c'est cela. Et en plus, cet endroit, ce sera bien, car pas très loin de cet endroit-là, il y a aussi une petite Estelle Jean Moulin. Et ça, ah bah oui. Ça fermera le cercle ouais, ouais. De ces résistants, des grands résistants.
Jean Moulin qui avait été arrêté en même temps que Raymond Aubrac, mais qui n'a pas pu être libéré. Voilà, c'est ça. Alors, bah, on va écouter quand même ce qui a été le chant des partisans, c'est-à-dire vraiment l'hymne fédérateur, on va dire. Mais alors, on ne va pas l'entendre dans une version, souvent on entend Yves Montand, mais on va entendre celle qui a écrit les paroles et composé la musique, qui s'appelait Anna Marly, et qui en fait était d'origine russe, et qui est la première à avoir interprété le chant des partisans. D'accord. Voilà, encore une autre archive. IDFM, rendez-vous compte. On écoute.
Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme.
Voilà, nous sommes toujours bien sur IDFM à l'écoute de ce rendez-vous compte où nous recevons Renate et Angela Esther qui nous parlent toujours de leur désir que soit commémorée la mémoire de Lucie et Raymond Aubrac qui ont vécu pendant une douzaine d'années à Soisy. Pourquoi est-ce que pour vous, dans notre période actuelle, c'est vraiment important, c'est presque urgent de raviver le souvenir de Lucie et de Raymond?
Pour notre commune, c'est voir les devoirs de souvenir de ses habitants et qui se sont battus pour la France, pour la liberté, pour les valeurs vraiment. Et républicains, ils sont menés des combats courageux en péril de leur vie. Et justement, dans notre situation actuelle, plus que jamais, il faudrait le rappeler. Et surtout, la commune devrait transmettre aux jeunes soisiens les valeurs qui avaient poussé ces résistants à agir pour la France. Il nous faut communiquer plus que jamais aux jeunes l'essence des valeurs qui se perdent un peu malheureusement, de la solidarité, fraternité et de la justice. Et là, nous, on trouve ça aussi dans le sens aussi de Lucie Aubrac, qui a toujours œuvré pour les jeunes, la diviste de la section du Parlement européen des jeunes, se souvenir d'hier, comprendre aujourd'hui, construire demain.
Très belle devise. Et d'ailleurs, après sa retraite, pendant sa retraite, Lucie, je crois, a fait partie d'Amnesty International. Oui. S'est battue pour le droit des immigrants.
Voilà, donc des sans-papiers.
Des sans-papiers. Donc jusqu'au bout, elle a été dans la solidarité.
Tout à fait. Lucie Aubrac, c'était pas une féministe. C'était une femme libre. Elle s'est jamais revendiquée comme féministe. Mais elle était tellement libre. Elle a vraiment agi comme elle l'attendait. Et bon, heureusement aussi, il y avait un mari qui complétait tout ça. Et lui, il était plutôt plus féministe qu'elle. C'était elle et c'était ses valeurs, simplement.
Voilà, pour la France.
Oui.
Voilà. Alors, elle était effectivement plus dans l'action. Oui. Lui, il était plus dans la réflexion, oui. La préparation, tout le côté un petit peu dans l'ombre, on pourrait dire.
Dans l'organisation.
L'organisation. Oui. C'est ça.
Surtout quand on pense à les différents groupes de résistants qu'il a
fédérés
au mois de, disons, dans le sud en tout cas. Mmh. Il n'avait pas l'occasion de faire le même travail dans le nord.
Ah oui, je voulais aussi ajouter qu'il y a des gens qui pensent qu'elle était communiste pure et dure, ou on me rappelle même les suppôts staliniens. Ouais. Non, on ne peut pas dire ça quand même. Le parti communiste, pour eux, elle était trop libre.
C'est ça.
Elle ne voulait pas rentrer dans les cases. Alors, au contraire, elle avait plus de problèmes avec eux que ça. Alors ça, on voulait aussi faire remarquer.
Voilà, j'ai consulté une note du parti communiste, justement, à son égard, qui était assez distante parce que, bon, déjà, elle avait pour filleule d'une de ses enfants le général de Gaulle. Donc, à l'époque, c'était un petit peu compliqué par rapport aux communistes. Et puis, effectivement, elle avait publié, je crois, un livre sur le parti qui n'a pas été très bien apprécié. Bon, voilà. Donc, compagnon de route, peut-être, mais pas militante, acharnée.
Donc, elle a pris ses distances aussi.
Oui, oui, très bien.
Oui, surtout dans les années après la guerre, là.
Bien sûr.
Quand tout ce qui est passé, à Prague et tout ça, et ils étaient choqués, ils ont pris leur distance.
Voilà, donc des personnes résistantes mais libres. Voilà, bah écoutez, notre émission se termine, ça passe très vite. Un dernier mot peut-être, Renate?
Oui, moi je suis vraiment pleine d'admiration pour cette femme, cette jeune femme avec des petits enfants, avec son travail en tant qu'enseignante, et d'avoir eu le temps pour les autres. Je trouve ça extraordinaire. On voudrait remercier le professeur Doussou pour...
Laurent Doussou.
Laurent Doussou pour avoir fait cette biographie Lucie Aubrac. Ça nous a beaucoup aidés, beaucoup intéressés. Et c'est écrit en sang avec beaucoup d'amour et avec une objectivité remarquable.
Angela et Renate, vous avez demandé à écouter un deuxième titre, une chanson de Jean-Jacques Goldman qui s'intitule « Né en 17 » à Lindenstadt, une chanson interprétée par Goldman lui-même, Mike Jones et Carol Fredericks, parue sur leur album intitulé tout simplement « Fredericks, Goldman et Jones » en 1990. Dans cette chanson, les trois interprètes se demandent s'ils auraient agi différemment, s'ils avaient été à la place des Allemands après la défaite de la Première Guerre mondiale et pendant la montée du nazisme. Bon, en précisant que Jean-Jacques Goldman est d'origine juive polonaise par son père et allemande par sa mère, ou s'ils avaient été à la place des Nord-Irlandais dans le conflit nord-irlandais, sachant que Michael Jones est gallois, ou enfin s'ils avaient été à la place des riches blancs pendant l'apartheid en Afrique du Sud. Carol Fredericks, noire américaine, avait connu, elle, la ségrégation raciale aux États-Unis. On écoute « Né en 17 » à Lindenstadt de Jean-Jacques Goldman.
Et si j'étais né en 17 à Lindenstadt, sur les ruines d'un champ de bataille, aurais-je été meilleur ou pire que ces gens, si j'avais été allemand? Bercé d'humiliation, de haine, d'ignorance, nourri de rêves de revanche, aurais-je été de ces improbables consciences, larmes au milieu d'un torrent? Si j'avais grandi dans les Docklands de Belfast, soldat d'une foi, d'une caste, aurais-je eu la force envers et contre les nains de trahir ton humain? Si j'étais né...
Bah écoutez, on souhaite que la municipalité de Soisy prenne en compte notre émission. Et puis une stèle, ça serait bien.
Oui, oui.
Voilà.
Ça sera encore mieux.
Ça serait à la fois un souvenir, comme vous dites, dans un lieu naturel, donc qui est plutôt propice à une réflexion décontractée, enfin agréable. Et si c'est à côté de celle de Jean Moulin, c'est pas mal.
C'est pas loin. Oui. Pas loin.
Pas loin.
Je pense que ce sera une bonne réponse à ce qu'ils ont vécu avec les procès qu'on leur a fait.
Oui, parce qu'on on peut signaler qu'après la guerre, même après la sortie d'un film qui s'appelait Lucie Aubrac, certains ont accusé plus ou moins Lucie et Raymond d'avoir sauvé en gros leur propre peau en sacrifiant Jean Moulin.
Oui, tout à fait. Mais il ne faut pas oublier d'où vient ce propos, c'est Klaus Barbie. Alors, ceux qui donnent vraiment la force à Klaus Barbie, c'est quelqu'un qui était un menteur, tout ce qu'il a fait. Alors, c'était pour manipuler les autres. Et en plus, ils avaient eu le procès, mais c'était innocent.
Voilà. Là, effectivement, les grands résistants de l'époque ont fait une commission, ont étudié le dossier. Et puis, Lucie et Raymond ont été totalement innocentés.
Et surtout, sur la demande de Raymond Aubrac.
Voilà.
C'est eux qu'ils ont demandé, c'était innocenté.
Et l'auteur de ces accusations a été condamné pour diffamation.
Oui, c'est ça. Et il reste toujours un doute que ce n'était pas lui qui l'a dénoncé.
Reste un des mystères de cette période.
Oui.
Et c'est d'autant plus, je trouve, valorisant pour Lucie Aubrac. Elle ne s'est laissée pas, elle a continué sa bataille. Malgré toutes ces accusations, parce qu'elle a dû en souffrir sous...
Ah, c'est clair.
Oui.
Et même le Parti communiste a reconnu qu'ils étaient totalement innocents de ces accusations diffamatoires.
Oui.
Voilà. Merci Renate. Merci Angela.
Merci à vous.
Et puis on se donne rendez-vous pour peut-être une bonne nouvelle.
Ah oui, ça serait formidable.
On viendra vous voir.
Voilà, tout à fait. Voilà, c'était Didier sur IDFM pour un nouveau Rendez-vous Compte. L'émission sera en podcast et vous pourrez l'écouter donc quand vous voudrez. À la semaine prochaine, même heure, même adresse, pour un nouveau Rendez-vous Compte.